Donc aujourd'hui, une brève présentation générale du Prince de Machiavel. Donc c'est un texte dont on connaît à peu près, à coup sûr, la date de composition. La date de publication sera post-mortem, puisque la première édition verra le jour en 1532. Mais le texte, entre-temps, a circulé manuscrit à Florence pendant presque une vingtaine d'années. Et on connaît la date de composition parce que par une lettre que Machiavel a écrite le 10 décembre 1513 à un de ses amis qui s'appelle Francesco Vettori, qui est à ce moment-là ambassadeur de Florence à Rome. Et dans cette lettre, il annonce qu'il vient de rédiger ce qu'il nomme « Uno opuscolo de principatibus », un opuscule sur les principats, sur les principautés. Et au moment où il écrit ses lettres, il n'est plus aux affaires. Il a dû quitter les fonctions qu'il occupait au service de la République florentine depuis le 15 juin 1498, date à laquelle il avait été élu secrétaire de la seconde chancellerie de la République florentine. En effet, au début du mois de novembre 1512, les Médicis, après pratiquement 18 ans hors de la cité, puisqu'ils avaient été chassés en novembre 1494, reviennent à Florence grâce à une armée espagnole. À ce moment-là, Machiavel, qui est considéré comme un des principaux conseillers de celui qui dirigeait Florence, qui était le gonfalonier à vie Piero Soderini, est donc assigné en résidence surveillée hors de la ville, à la campagne. Machiavel est ensuite arrêté le 12 février 1513, après la découverte d'une conjuration contre les Médicis. Et il ne devra sa libération qu'à cette espèce de liesse générale qui suit l'élection d'un Médicis, Giovanni de Medici, au pontificat. Le 11 mars 1513, le cardinal de Médicis devient pape sous le nom de Léon X. Et donc on est quelques mois après, et dans la lettre que Machiavel envoie à Vettori, et donc en décembre, une des questions qu'il se pose, c'est précisément d'écrire pour demander conseil sur la façon de rentrer en grâce, au moins d'être utilisé, que ses compétences soient utilisées par les Médicis. Et il explique dans cette lettre qu'il envisage de faire lire son opuscule à Julien de Médicis, et on sait qu'il finira par le dédicacer à un autre membre de la famille, Laurent, le fils de Pierre de Médicis, celui qui avait été chassé de Florence en novembre 1494. Donc le prince est en gros écrit à ce moment-là, donc dans le dernier semestre de l'année 1513. Et il circule pendant une vingtaine d'années sous forme manuscrite et il n'est édité que 5 ans après la mort de Machiavel, en 1532, à quelques mois de distance, à Rome et à Florence. Et depuis, on sait que c'est un texte qui est un des classiques de la pensée politique, texte qui ne cesse d'être lu, traduit et commenté. Alors d'abord, un bref panorama du texte, de comment il se présente. Donc il se présente sous la forme de 26 chapitres. Quand Machiavel dit que c'est un opuscule, il a raison, c'est pas un grand texte, même si les commentaires érudits s'ajoutant aux commentaires érudits, ça peut devenir un livre assez gros, mais le texte lui-même, 26 chapitres, plutôt petit, ou en tout cas rarement très long. Donc Machiavel commence par exposer de quelles espèces sont les principati, ces principats, ces formes de gouvernement où un seul dirige. Et il explicite qu'il va insister sur les principats nouveaux. Il fait intervenir des variables importantes dans leur sens. Hein, les principaux nouveaux, dit-il, c'est dans le premier chapitre, les principaux nouveaux s'acquièrent soit avec les armes d'autrui, soit avec ses propres armes, soit par fortune, soit par vertu. Et cette question des armes et la question du rapport entre fortune et vertu, fortuna et virtù, va être deux des points d'ancrage de la réflexion machiavélienne tout au long du texte. Alors, il ajoute à cette typologie initiale deux cas spécifiques. Hein, le cas des principats ecclésiastiques, en fait, et c'est le chapitre 11 du Prince, dans lequel il va essentiellement faire une histoire du pontificat dans l'Italie de la fin 15e, début 16e siècle. Et puis un autre cas qui est traité dans le chapitre 9, qui est le cas où un citoyen privé devient le prince de sa patrie. Évidemment, c'est le chapitre le plus proche de problématiques strictement florentines, de questions strictement florentines. Donc après cette sorte de balayage d'une typologie des principats, on passe à un autre bloc de chapitres, les chapitres 12 à 14, qui aborde strictement la question des armes et de la guerre, hein, la guerre que Machiavel définit comme le seul art, mais il faut prendre la art aussi dans le sens de métier, hein, le seul art ou le seul métier qui convienne à celui qui commande. Puis, dans un nouveau bloc de réflexion qui va du chapitre 15 au chapitre 19, hein, se développe la réflexion sur les qualités du prince. Ce bloc-là est sans aucun doute celui qui a fait la réputation sulfureuse du prince. Hein, l'idée que c'est vraiment un texte diabolique. Pourquoi ? Parce que cet ensemble de textes-là part de l'idée qu'il ne faut pas partir de ce qu'on peut imaginer sur comment devraient être les choses, mais qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont dans les faits, quelles qu'elles sont dans leurs effets. Hein, et c'est cette formulation du chapitre 15 qui est très souvent redite et commentée, qui est « suivre la vérité effective de la chose, la vérité effettuale de la cause ». Donc, dans ces chapitres, Machiavel explique qu'un prince doit bien savoir user de la bête et de l'homme, qu'il doit se soucier de vaincre et de maintenir son état, quels que soient les moyens, et, quoi qu'il en soit, qu'il faut avant tout éviter d'encourir le mépris et la haine de ses sujets. Cette idée-là est centrale dans un des chapitres qui est un des plus longs de l'ouvrage, qui est le chapitre 19. Alors, un autre bloc important, c'est la réflexion que mène Machiavel dans les chapitres 24 et 25 sur les rapports entre la virtù et la fortuna, hein, entre la vertu et la fortune. Réflexion qui se termine par une sorte de pari machiavélien. Là aussi, on oublie souvent l'ensemble de la réflexion pour se focaliser sur la conclusion du chapitre 25, hein, qui énonce une sorte de pari, hein, un pari sur la meilleure façon de faire, hein, qui s'énonce dans ces termes. Il vaut mieux être impétueux que circonspect, car la fortune est femme, et il est nécessaire, si l'on veut la culbuter, de la battre et de la bousculer. Enfin, c'est le dernier chapitre du texte, le prince termine par une exhortation à libérer l'Italie des barbares. Dans sa lettre de dédicace, donc à Laurent, le fils de Pierre de Médicis, Laurent le Jeune, hein, Machiavel a énoncé de façon extrêmement concise les deux piliers de sa méthode. On va les reprendre brièvement un par un. Ce qu'il a appris, dit-il, et donc ce qui est tout ce qu'il peut donner à un prince comme Laurent le Jeune, eh bien, il l'a acquis grâce à une longue expérience des choses modernes et une continuelle lecture des choses antiques. Brièvement, qu'est-ce que signifient ces deux piliers de la méthode, hein, l'expérience d'un côté, la lecture des anciens de l'autre. Alors, la lunga experiencia delle cose moderne, cette longue expérience des choses modernes, vient du fait que dans l'Italie que connaît Machiavel, dans l'Italie où vit Machiavel, l'état de guerre est une donnée permanente. La situation antérieure, que Machiavel désigne en parlant des temps où l'Italie était d'une certaine façon en équilibre, hein, dans le chapitre 20 du Prince, a été bouleversée par l'arrivée à l'automne 1494 des troupes françaises. Et on a la présence de cette histoire récente, de cette histoire des temps présents dans l'ensemble du texte. Donc, l'Italie, nous dit Machiavel, après la première arrivée d'un roi français, le roi Charles, hein, Charles VIII, c'est lui qui est arrivé en 1494 à la tête de ses troupes, a connu les comportements de son successeur, Louis XII, qui s'empare du Michel de Milan et devient ainsi l'arbitre de l'Italie. Tout un chapitre important du prince, le chapitre 3, est consacré à l'analyse de cette politique. Louis XII explique Machiavel a apporté son aide au pape Alexandre VI et à son fils César Borgia. César Borgia qui lui-même sera un des personnages importants du prince puisque tout le chapitre 7, mais aussi d'autres passages dans d'autres chapitres, en particulier chapitre 8, hein, lui sont consacrés. Louis XII s'allia avec les Espagnols, avec Ferdinand d'Aragon, pour s'emparer du royaume de Naples, et a mis ainsi l'Italie dans une situation où deux forces se combattaient. Machiavel indique que c'est une des erreurs de Louis XII d'avoir mis en Italie un compagnon qui ne tarda pas à s'emparer de tout le sud de l'Italie. L'élection du pape Jules II le 1er novembre 1503 a aussi une conséquence que Machiavel analyse, puisque avec ces mouvements impétueux, c'est la formulation que Machiavel donne dans le chapitre 25, et ces brusques changements d'alliance, eh bien, le pape put penser à s'emparer de Bologne et à anéantir les Vénitiens et à chasser les Français d'Italie, et toutes ces entreprises lui réussirent. Ce passage-là est tiré du chapitre 11. La dernière de ces trois entreprises du pape Jules II introduisit les Suisses en Italie, non plus seulement comme soldats mercenaires, mais comme acteurs politiques. Donc, présence de tous ces événements liés aux guerres qui se déroulent en Italie. Présence également de toute une réflexion qui vient de l'effet de ces guerres, de l'effet de la présence en Italie des Français et puis des Français et des Espagnols, à Florence même. Puisque à Florence, dès 1494, l'arrivée des troupes françaises a une conséquence extrêmement importante. Cette arrivée, cette calate de Charles VIII, qui, après 60 ans de prédominance de la famille, oblige Pierre de Médicis, fils aîné de Laurent le Magnifique, à s'enfuir devant une émeute le 9 novembre 1494. Au même moment, une des villes sujettes de Florence, Pise se rebelle et Florence va connaître pendant jusqu'en 1509, date à laquelle elle reprend Pise, une guerre pour reprendre la prédominance sur sa ville, sur sa ville sujette, Pise, qui s'était révoltée. Après la fuite de Pierre de Médicis en novembre 1494, il ne manquait pas de partisans à Florence d'un pur et simple retour aux institutions antérieures, aux institutions d'avant la prise effective du pouvoir par Côme l'Ancien en 1434. Pourtant, ce ne fut pas un retour aux institutions d'avant la prédominance des Médicis, d'avant 1434 qui fut décidée, mais bien une forme inédite qui marque la pensée politique et la vie politique à Florence pendant toute la période. Cette forme politique, c'est le Grand Conseil qui regroupe tous les citoyens florentins aptes aux offices, et ça veut dire pratiquement plus de 3000 personnes qui sont dans ce conseil où on décide, on vote les lois, on vote les impôts, etc. Où donc les grandes décisions sont entérinées, même si elles sont préparées dans des conseils plus restreints. À ce moment-là, le frère dominicain Savonarole, qui est alors le prieur du couvent de Saint-Marc, joue un rôle déterminant. C'est lui qui incite les Florentins à choisir cette forme nouvelle en ne retournant pas à la situation antérieure. Le Grand Conseil, d'ailleurs, survécut à la ruine de Savonarole en avril-mai 1498 et à son exécution le 23 mai 1498. Quelques années plus tard, donc en 1502, le fonctionnement du gouvernement de Florence a été modifié sur un point important, puisque, conscient de la faiblesse provoquée par le changement très, très fréquent, puisqu'il change tous les deux mois, d'exécutif, eh bien les Florentins mettent en place un gonfalonierat à vie. Et puisqu'auparavant, le gonfalonier et les seigneurs, les signori, qui étaient l'exécutif du gouvernement florentin, changeaient tous les deux mois. Donc à partir de 1502, on décide donc que le gonfalonier, une fois élu, reste jusqu'à sa mort. Un peu sur le modèle du doge vénitien. Et le 22 septembre 1502, Piero Soderini fut élu et reste en place jusqu'au retour des Médicis en 1512. Ceci, évidemment, en 1512, supprimèrent aussi bien le Grand Conseil que le gonfalonierat à vie. Et rétablir donc l'élection tous les deux mois d'un exécutif, évidemment, qui ne leur posait pas de problème, puisque les décisions importantes étaient prises par eux-mêmes, dans ce que Machiavel nomme dans un texte les lieux transversaux, i luoghi trasversali. Et donc, pendant toutes les années où il est au service de l'État florentin, donc de 1498, avec la date et celle de la chute de Savonarole, donc immédiatement après la chute de Savonarole, il devient donc secrétaire de la seconde chancellerie, et il reste jusqu'à 1512, et pendant toute cette période, il est l'homme de confiance, très rapidement, un des hommes de confiance les plus proches du gonfalonier à vie, Piero Soderini. C'est lui qu'on envoie en ambassade auprès de nombreux seigneurs italiens, auprès de Cesare Borgia, dont on vient de parler, auprès du roi Louis XII, auprès de l'empereur Maximilien, du pape Jules II. Et donc, ces années-là, ce qu'il nomme dans la lettre à Vettori, dont on a parlé tout à l'heure, les 15 ans où j'ai été en apprentissage dans le métier de l'État, eh bien, il faut les avoir en tête, il faut s'en souvenir, de ses 15 années de pratique dans le métier de l'État, l'arte dello Stato, parce que ces années sont un laboratoire pour la pensée machiavélienne et ne cessent de se refléter dans le texte. Donc voilà pour cette expérience des choses, cette longue expérience, hein, 15 ans au service de la République, des choses modernes, premier pilier de la méthode. Deuxième pilier de la méthode, la continua lezione delle cose antiche, cette continuelle lecture des choses antiques. Et donc il faut avoir en tête que Machiavel ne se contente pas de l'expérience vécue, de l'expérience directe, de l'expérience dans le métier hein, de l'État. Il ne cesse de la mettre en parallèle avec les exemples historiques tirés de ses lectures des anciens. Et dans cet aller-retour entre l'expérience du présent et la lecture du passé, il tente à élaborer, sinon des règles à proprement parler, du moins des conjectures probables, des hypothèses pour comprendre le monde, pour comprendre les rapports conflictuels entre les stati. Dans la lettre à Vettori, que j'ai citée en début de cette intervention, Machiavel rapporte de façon intéressante la façon dont il lit ces textes des anciens. Hein, donc, une lettre où il explique sa vie quotidienne à la campagne. Donc, il est là, il va chasser les petits oiseaux, il va voir les bûcherons qui coupent le bois, il discute avec les gens qui passent sur la route, il va jouer aux cartes en criant comme un forcené pour chaque point. Et puis, dit-il, le soir venu, je retourne chez moi et j'entre dans mon cabinet. Sur le seuil, j'enlève mes vêtements quotidiens, couverts de boue et tout crottés, et je revais des habits dignes de la cour d'un roi ou d'un pape. Et vêtu comme il se doit, j'entre dans les antiques cours des anciens, où, reçu par eux avec amour, je me repais de cette nourriture qui est faite pour moi, et pour lequel je naquis. Et là, je n'ai pas honte de parler avec eux et de leur demander les raisons de leurs actes. Et eux, par humanité, ils me répondent. Donc le passage mis en scène dans la lettre du joueur de cartes braillard qui hurle pour chaque point qu'il a gagné ou perdu, à ce lettré qui discute avec les sages de l'Antiquité, qui les interroge sur le sens de leurs actions, sur le sens de leurs textes. On peut, sans aucun doute, dans cette mise en scène, voir une inscription dans une longue tradition humaniste, la longue tradition de l'amour des textes. L'amour des textes et rapport aux textes capable de rendre les hommes meilleurs qu'ils ne le sont. Mais il faut bien noter le sens de cette démarche. Il s'agit d'interroger les hommes de l'Antiquité afin de leur demander les raisons de leurs actes et afin d'en tirer des leçons pour le présent. Et donc c'est là une position qui relève à la fois d'une vraie revendication de la tradition humaniste, mais aussi d'une polémique vis-à-vis de la façon dont cette tradition humaniste a imité, ou plutôt n'a pas toujours imité, ou n'a pas bien imité, les anciens. Selon Machiavel, les humanistes suivent, et ils ont tout à fait raison de le faire, l'exemple des anciens en ce qui concerne les arts, la médecine et le droit, mais ils se refusent à le faire en matière politique et militaire. Or, selon lui, c'est bien précisément aux exemples des anciens qu'il convient de recourir dans ces domaines-là, en matière politique et militaire. L'amour évident de Machiavel pour les anciens ne doit donc pas faire oublier que sa lecture s'ancre dans le présent, dans l'analyse de ce qu'il nomme la qualità des tempi, la qualité des temps. Hein, quels sont les temps? Comment sont-ils? Quel rapport de force y a-t-il? Quels enjeux d'une période? Sans doute, nous pourrions nommer cette qualité des tempi, dans un terme contemporain, une conjoncture politico-militaire. Donc l'expérience politique et militaire des anciens, rapportée par l'histoire, doit être interrogée en fonction des questions que pose l'histoire du temps présent. Et cette histoire du temps présent, elle est profondément marquée par la question de la guerre et de la survie ou non, la question de la survie ou non de la République florentine en fonction de cette guerre. Donc le troisième point que j'aborderai, c'est donc précisément cette question des armes, la question militaire, la question de la nécessaire intégration de la dimension militaire dans une réflexion politique au moment où il écrit. Et donc il y a un élément qui revient de façon récurrente, c'est le fait que si une république ou si un prince n'a pas ce qu'il nomme les armes proprie, c'est-à-dire des armes qui lui soient propres. Hein. Les armes propres sont à opposer à la façon dont la plupart des républiques et des princes italiens, dont Florence, mais pas seulement Florence, en usent pour le moment, c'est-à-dire qu'ils font confiance, à tort, à des mercenaires. Donc, la polémique contre les armes mercenaires et la mise en avant de la nécessaire mise en place d'une forme militaire qui soit directement liée soit au prince, les sujets du prince qui vont se battre par amour pour lui, ou les citoyens d'une république qui vont se battre par amour de leur cité et de leur république. La deuxième polémique qui structure la réflexion sur les armes et sur la guerre dans le prince, est une polémique contre la cavalerie et en faveur de la mise en place d'infanterie. Alors, en s'appuyant sur, historiquement, l'exemple des Romains et, sur le moment présent, sur l'exemple des Suisses. Pour Machiavel, si l'Italie a été parcouru par Charles VIII, pillé par Louis XII, forcé par Ferdinand d'Aragon et outragé par les Suisses, c'est dans le chapitre 12 du Prince, c'est précisément parce que les princes italiens ont confié la conduite de la guerre à des condottières mercenaires, qui eux-mêmes avaient fait l'erreur de ne pas avoir mis en place une infanterie forte, mais de s'appuyer essentiellement sur une cavalerie. Le prince, pour Machiavel, doit s'appuyer sur des armes propres, c'est-à-dire, il en donne la définition dans le chapitre 13, ces armes qui sont composées de tes sujets ou de tes citoyens ou de tes créatures, toutes les autres sont soit mercenaires, soit auxiliaires. Les formes armées auxiliaires sont celles qui proviennent d'alliances avec d'autres États ou d'autres princes ou rois. Donc le prince doit s'appuyer sur des armes propres et il doit également comprendre que la force d'une armée réside dans l'infanterie et non dans les cavaliers. Machiavel pense, et il l'exprime très clairement dans les premières lignes du chapitre 14, qu'un prince ne doit avoir d'autres objets ni d'autres pensées et ne doit rien choisir d'autre pour art, hormis la guerre et les ordres et la discipline de celle-ci. Dans le chapitre 12, qui est donc le premier du bloc consacré à la réflexion directe sur les armes et sur la guerre, Machiavel commente la façon dont Charles VIII a traversé l'Italie pour s'emparer de Naples à l'automne 1494 sans rencontrer la moindre résistance. Il emploie l'expression « il a pu prendre l'Italie avec de la craie ». La craie, c'est la craie des fourriers qui vont marquer sur les maisons « demain on sera là et on fera coucher ici la compagnie telle et telle ». Voilà. Il n'y a même pas eu besoin de combattre, il suffisait d'envoyer les fourriers avec de la craie et il a pris l'Italie sans coup férir. Et alors là, il commente de la façon suivante. Il dit, ce qui s'est passé là, eh bien, celui qui disait que nos péchés en étaient cause, disait la vérité. Mais ce n'était pas du tout ceux qu'il croyait, mais ceux que j'ai racontés. Et puisque c'était là péché de prince, ils en ont souffert les peines, eux aussi. Bon, voyez bien qu'il y a d'une part celui qui disait que nos péchés en étaient cause, c'est l'allusion précise au sermon du prieur de Saint-Marc, Savonarole, qui effectivement montait en chaire tous les jours pour expliquer aux Florentins que c'était un dessein divin ce qui se passait, que ce bouleversement était voulu par Dieu, et que s'il y avait bouleversement, c'est qu'il y avait faute, péché des hommes. Mais on voit bien aussi le renversement de perspective. Pour Machiavel, les péchés des princes italiens consistent précisément à avoir été incapables de mener la guerre, consiste à ne pas avoir su faire la guerre, consiste à s'être appuyé sur des armes mercenaires et pas sur des armes propres. Et il y a là un lien qui va être repris au moins à deux moments importants du texte, plus loin, là on est dans le chapitre 12, on va voir réapparaître cette idée dans le chapitre 24, et on va le revoir apparaître dans le dernier chapitre, le 26, le chapitre de l'exhortation à libérer l'Italie des barbares. Alors, dans le chapitre 24, Machiavel entend expliquer pourquoi les princes d'Italie, de son temps, ont perdu leurs états. Et il souligne que les princes qui ont perdu leurs états ne doivent pas accuser la fortune, mais bien leur ignavia. Alors, si on a en tête péché des princes italiens, on se rend compte que ignavia, c'est le péché capital de la paresse, et que le lien est fait entre le chapitre 12, les péchés des princes, et accuser non pas la fortune, mais l'ignavia, le péché capital de la paresse. Et on va retrouver cette allusion au péché dans l'exhortation finale à libérer l'Italie des barbares, puisque dans ce chapitre, Machiavel va dire que l'Italie a besoin d'un rédempteur. Et qu'est-ce qu'un rédempteur ? Eh bien, c'est simplement celui qui est capable, et le verbe aussi est utilisé dans le texte, de redimere les péchés, de racheter les péchés. Alors, le terme en français classique existe, redimer les péchés. Donc, il s'agit donc de trouver pour l'Italie l'homme capable de racheter les péchés des princes. Et dans le chapitre 26, la tâche du rédempteur de l'Italie est très clairement définie en termes militaires. Le rédempteur devra savoir mettre fin aux défaites des armées italiennes en se pourvoyant, je cite, d'armes propres, car on ne peut avoir de plus fidèles, ni de plus vrais, ni de meilleurs soldats, donc la thématique des armes propres, et, un peu plus loin dans le texte, en mettant en ordre une infanterie qui résiste aux cavaliers et n'ait pas peur des fantassins, apparaît également là le plaidoyer central pour les armes propres, fondées sur l'infanterie, contre les armes mercenaires fondées sur la cavalerie. Enfin, le dernier point de cette brève présentation porte sur l'idée de la vérité effective de la chose. Hein, l'idée qu'il faut avoir une vision s'appuie sur la chose telle qu'elle est réellement, la vérité la verità effettuale, écrit-il. Effettuale, dans effettuale, il faut avoir en tête ce qui se déroule réellement dans les faits et ce qui est produit comme effet. Hein, c'est ce double sens qu'on a dans cette formule qu'on trouve dans le chapitre 15. Donc, pour Machiavel, le prince doit, après avoir analysé la qualité des temps, définir les objectifs et les enjeux de la période et déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais en fonction de ces objectifs. La vertu du prince peut alors se lire comme une éthique de l'action. Il s'agit pour Machiavel de ne jamais se laisser aller, de ne jamais s'abandonner, non si abbandonare mai. La question de l'occasion que fournit ou non la fortune est complètement lié à cet état d'esprit. Dans le chapitre 26, Machiavel explique que l'Italie est actuellement plus esclave que les Juifs, plus asservie que les Perses, plus dispersée que les Athéniens, sans chef, sans ordre, battue, dépouillée, lacérée, parcourue en tous sens. Et voilà que cette situation, qui est la pire des situations, est en fait une occasion que fournit la fortune. Car c'est elle, cette situation quasiment désespérée, hein, qui permettra de montrer la vertu d'un esprit italien. Le rôle de l'acteur politique, pour Machiavel, est toujours possible, il est toujours déterminant. On peut échouer dans les tentatives, mais on peut également analyser les échecs. Et quoi qu'il en soit, il reste un impératif éthique. Non si abbandonare mai, il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas s'abandonner au sort. D'ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure, la fortune est une femme et aime les hommes impétueux. Le bien, ou plutôt l'agir bien, consiste donc en se comportant en bon médecin, en bon architecte. Et ces deux métaphores sont récurrentes dans Le Prince. Le prince bon médecin, le prince bon architecte, celui qui sait voir de loin, celui qui sait construire en ayant conçu auparavant les différentes étapes de la construction. Celui qui sait voir la maladie avant qu'elle soit trop avancée pour qu'on puisse encore, au moment où on voit les premiers symptômes, agir. Et donc, le prince, en se comportant en bon médecin, en bon architecte, doit agir en fonction de la qualité des temps. Alors, on voit bien que si on tire les leçons de cette hypothèse-là, eh bien, n'importe qui, dès lors qu'il a en lui l'hypothèse de ne pas se laisser aller, peut jouer un rôle. S'il atteint les objectifs qu'il s'est fixés, il joue bien le rôle qui lui est dévolu. Et on voit bien que c'est sur ce point-là que peuvent prendre naissance, et non sans raison, les lectures qui font de Machiavel un auteur machiavélique et du prince un texte écrit par le doigt du diable. Puisque la conception même de l'acteur politique virtuoso porte en germe l'indétermination de son être et de son action. Ce que dit au fond là Machiavel, c'est que n'importe qui peut définir les enjeux d'une période historique, qui est bon et qui est bien ce qui réussit, qui est mauvais ce qui échoue, que la question centrale est la question de la force, et que de ce fait, et il le dit dans des termes aussi crus que ça, il y a un bon et un mauvais usage de la cruauté. On voit bien que cette position critique est très radicale et remet en cause tous les présupposés moraux. Mais là, une véritable force de dévoilement. Elle dévoile ce qui, bien souvent, est caché précisément par les discours de la morale, voire par les discours du droit. Elle dit que la force est aux racines de l'agir politique et du pouvoir. Donc le prince, et plus généralement tout acteur politique, va se servir de deux façons de combattre que Machiavel énonce dans le chapitre 18 du Prince. Il explique que les deux façons de combattre sont l'une par les lois, l'autre par la force, que la première est le propre de l'homme, la seconde des bêtes. Pour Machiavel, le prince, et plus globalement tout acteur politique, doit bien savoir se servir de la bête et de l'homme. C'est là une approche qui incite à ne pas se laisser abuser par les mots et à considérer les choses, la vérité effective des choses, la verità effettuale della cosa. Suivre la vérité effective de la chose et non l'image qu'on s'en fait. Dans le chapitre 15. Chacun, chaque acteur politique, peut entendre cet avertissement. Le prince nouveau, mais aussi le plébéien anonyme des histoires florentines dans le récit que Machiavel donne du tumulte des Ciompi. La démarche d'analyse de Machiavel peut dès lors être reprise en dehors de la période historique qui lui a donné naissance, et c'est bien ce qui a été fait par de nombreux commentateurs et qui ou acteurs politiques, puisque non seulement les commentateurs et les universitaires se penchent sur le texte, mais aussi les hommes politiques, elle l'est encore. Donc le prince, écrit en partie pour justifier qu'on confie à nouveau quelques charges, quelques responsabilités à son auteur, est aussi une proposition qui devrait s'imposer dans le cas où la corruption des ordres politiques serait si forte qu'elle risquerait de conduire la République à sa perte. Et on voit bien là l'hypothèse florentine d'une telle hypothèse. Mieux vaut un prince que la disparition de la cité, que le risque de mort de la cité comme entité indépendante et autonome. Mais s'il y a bien un caractère florentin du prince, il ne faut pas oublier ce qu'il nous dévoile sur les fonctionnements du politique. Le prince apprend à penser les conjonctures et leurs enjeux. Il fait comprendre quelles forces s'affrontent et n'exclut pas pour autant du champ de bataille la parole politique, puisque les mots ne prennent sens qu'à l'intérieur d'une certaine qualité des temps, et connaît ainsi une parole politique active et adaptable. Cette approche, attentive aux enseignements de l'histoire et faisant des questions posées par le présent la pierre de touche de l'analyse, fournit la condition d'un regard lucide et critique sur l'agir politique, sur le pouvoir et sur la guerre. Tout en se dégageant des présupposés moraux, elle affirme la nécessité d'un point de vue éthique des acteurs politiques.